qu'actuellement, les ouvriers et les employés d'Aïe Mort doivent prendre conscience que ce n'est plus un problème social, mais gouvernemental.
Absolument pas.
Pas possible. Pas possible.
Wish upon a star, a star shining like the light of truth, that that wish will come true.
Bonjour, bienvenue dans la série musicale 1968, la chanson au pouvoir, une émission proposée par Simon Ricaud. Pour commencer cette semaine consacrée aux révoltes qui ont secoué le monde il y a un demi-siècle, nous allons battre le pavé du Quartier Latin et escalader les barricades en prenant soin d'éviter les coups de matraque et les gaz lacrymo. N'oubliez pas, chacun de vous est concerné.
Pierre Lantenac qui se trouve au Quartier Latin veut l'antenne, je la lui passe. Pierre Lantenac ? Pierre Lantenac, que se passe... Oui ? Ah, je crois que... Pierre Lantenac ?
Oui ?
Oui, alors...
Bien, la tension ici a brusquement monté très rapidement. Maintenant, il semble que le moindre incident pourrait maintenant dégénérer. Grenade lacrymogène, donc rue Gay-Lussac. Garde mobile, les CRS arriveraient, dit-on, et progresseraient vers les barricades de la rue Gay-Lussac en venant de Port-Royal. Les yeux piquent, c'est maintenant l'affolement. Tout le monde monte aux barricades, armé de pavés. Les mouchoirs se mettent sur le nez et la tension a d'un seul coup monté. Elle a monté au moment précisément où je voulais demander à des leaders étudiants, à des porte-paroles, ce qu'ils pensaient des déclarations de Daniel Cohn-Bendit. Eh bien, à côté de moi, j'ai... Un étudiant, alors, que pensez-vous de ce qui se passe?
Il exprime exactement l'opinion de tout le monde ici. Il est évident que nous reculerons pas devant le gouvernement et nous restons ici jusqu'à temps que le gouvernement cède sur les trois points de l'UNEF. Premièrement, la libération de nos camarades qui sont en prison. Deuxièmement, la Sorbonne aux étudiants. Et troisièmement, l'évacuation des forces de police au Quartier Latin.
Donc, tant qu'il y aura un seul représentant
des services... Et le point le plus important, c'est la libération de nos camarades, ouvriers et étudiants qui ont été arrêtés par la police.
Mai 68 a été un échec politique, mais une réussite culturelle sur la longue durée. Ce pavé, c'est Pascal Horry qui le jetait au début du printemps sur l'antenne de France Culture. L'historien citait la loi Veil sur le droit à l'avortement, adoptée en 1975. L'écologie, qui fera son entrée dans le champ politique français lors de la présidentielle 74 avec René Dumont, ou le mariage pour tous, voté en 2013, plus de 30 ans après la dépénalisation de l'homosexualité. Au vrai, cette affirmation vaut aussi pour la chanson, parce que dans la production musicale hexagonale, il y a eu sans conteste un avant et un après 68. Face à la variété qui reste bien sage, avec ses paroles calibrées pour des médias audiovisuels toujours sous le strict contrôle du pouvoir gaulliste, une scène expérimentale et engagée entre en résistance. Loin des paillettes du show business, ces artistes exigent alors l'impossible, prouver qu'un underground à la française, c'est réaliste. En 74, le producteur anarchiste Jacques Leglou pastiche avec humour Jacques Dutronc sur le disque collectif « Pour en finir avec le travail », chanson du prolétariat révolutionnaire, référence évidente aux événements qui ont fait vaciller le pouvoir 6 printemps plus tôt.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel lâche au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil.
Avec une croissance supérieure à 5% par an depuis le début de la décennie, un taux de chômage d'à peine plus de 2%, la France de la fin des années 60 se porte comme un charme. Elle ne se connaît pas d'ennemis, claironne même le général de Gaulle lors de ses fameux vœux télévisés pour 68, lui qui ne voit donc pas comment le pays pourrait être paralysé par des crises. L'avenir, on le sait, lui donnera vite tort. Les Trente Glorieuses battent encore leur plein et l'insouciante jeunesse hexagonale voit la vie en rose, certaine des lendemains qui chantent. Les baby-boomers écoutent Europe numéro 1, lisent chaque mois Salut les copains, le magazine qui fête et défait les carrières des vedettes, ou est maté Mademoiselle H tendre pour les filles. En vue de séduire ses potentiels futurs électeurs, le Parti communiste publie quant à lui un titre concurrent, Nous les garçons et les filles, qui se veut un peu plus engagé. Sur les tourne-disques Tépas des teenagers, tournent en boucle les 45 tours des vedettes anglo-saxonnes et leurs adaptations françaises, comme cette reprise du Norwegian Wood des Beatles, la face A du premier EP de Stone, sorti en 1966, l'année où elle remporte le titre de Miss Beatnik. Décrire cette déferlante adolescente qui secoue les 60s, Edgar Morin a forgé en 1963 le néologisme yéyé en reprenant les célèbres interjections qui rythment le twist, le nouveau style à la mode. Ce terme lui est venu après l'incroyable succès de la Nuit de la Nation qui a rassemblé le 22 juin une foule immense de jeunes gens venus fêter l'anniversaire de Salut les copains et voir sur scène Johnny, Sylvie Vartan ou Eddie Mitchell. Edgar Morin a aussi tenté de franciser le mot « teenager » devenu décagénaire sous sa plume, mais avec moins de succès. En tout cas, le sociologue relève de ce côté-ci de l'Atlantique un phénomène qui affecte l'Amérique depuis déjà plusieurs années. L'avènement de la jeunesse comme une classe à part, entre l'enfance et l'âge adulte, qui devient une cible marketing de choix. Cette évolution va de pair avec l'explosion des médias de masse et marque les débuts de la pop culture. Pour ces yéyés biberonnés à la société de consommation, les modes se font et se défont toujours plus vite. En 1966, sur des paroles signées Jacques Lanzmann, Dutron l'assure, les gens sont fous, les temps sont flous.
Les gens prennent tout, les temps sont sous ça, les prend, comme ça d'un coup. Ils ont besoin d'un petit chouchou, d'un mermidou, d'un grand bichou. D'un truc en plastique, en caoutchouc, une petite chose pour faire chouchou. Et qui flambe vite, comme Amadou. Les gens sont fous, les temps sont fous, les temps sont fous, les gens sont fous. Yo-yo, la office Scooby-Doo, porte-clé et porte-chou, portefeuille et feuille de chou, c'est une manie. Le toutou, ce petit chien qui fait ma toux. Les temps sont fous, les gens sont fous, les gens sont fous, les temps sont fous. La petite rue qui vaut des clous, qui s'en font d'un vrai Pérou. Porte-clés n'est pas bijoux, ça n'ouvre que les verrous. Pas besoin de leur faire une interview. Les gens sont fous, les temps sont fous, les temps sont fous, les gens sont fous. Ils sont là comme des toutous de Paris. S'agit de faire joujou avec des bignous, des Scooby-Doo, des porte-clés, des loups-garous, andalous, ou bien hindous, en zoulou, des petits piou-piou qui s'amusent à pousse-caillou, au tirsou, au manitou, des porte-clés, des Scooby-Doo, font qu'ils en tombent à genoux. Les gens sont fous, les temps sont fous, les temps sont fous, les gens sont fous, les gens sont fous, les temps.
Les années 60, c'est le moment où le monde occidental pénètre dans la civilisation du bien-être, du confort, de la consommation, de la rationalisation, poursuit Edgar Morin. Et pourtant, au mi-temps de la décennie, le mouvement yéyé commence à patiner. Une nouvelle scène moins soumise et plus rock émerge en France, inspirée par les beatniks et le British Beat qui débarquent tout juste d'outre-Manche. Un élève ingénieur à Centrale défraie alors la chronique avec ses cheveux longs et ses chemises à fleurs. Dans ses élucubrations, single inspiré par les ritournelles dylaniennes, Antoine scande d'oser oyer, affirme son irrépressible désir de liberté et désingue Johnny Hallyday et Yvette Horner. Vexé, l'idole des jeunes lui répondra vertement dans « Cheveux longs, idées courtes ». Mais le plus anglais des chanteurs français s'appelle alors Ronald Mayhew, plus connu sous le pseudonyme de Ronnie Bird. Il s'attire les faveurs des premiers fans français des Beatles et des Stones avec sa coupe au bol et son esthétique « Swinging London ». Autant dire que ce fils d'ouvrier ne goûte pas vraiment la conversion de la petite bourgeoisie au rock et à l'esthétique beat. En 2 minutes 30 de fuzz pied au plancher, il rhabille Antoine pour l'hiver avec Chante.
Voilà que la chanson devient un vrai concours. Les idoles, la centrale viennent suivre les cours. Chante, l'autoroute à présent devient remplie de chants. Chante, puisqu'il paraît qu'elle conduit à la tour d'argent. Moi je meurs, oui je meurs. Hélas, trois fois hélas, parce que je n'ai pas étudié. Vietnam et Cuba, c'est un joli gimmick. Treillis, chemise à fleurs et tu deviens pique-nique. Chante, on paye très très mal l'ingénieur atomique. Chante, la musique a du bon lorsque l'on pense aux frites. Moi j'espère, oui j'espère. Oh oui, peut-être que tu n'auras pas tout croqué. L'autre jour, je passais devant Milano. Il y avait écrit grande cage à gogo. Chante, un jour dans un rêve tu verras comme moi. Chante, un petit homme noir avec une grande voix. Ce jour-là, peut-être, oh oui peut-être, tu te moqueras bien de toi. Tu te moqueras bien de toi. Tu te moqueras bien de toi.
Le samedi, les banlieues se vidaient de leurs mutants électriques et de très longs week-ends commençaient, se souvient l'écrivain rock Yves Adrien. Les kids à cheveux longs arrivaient par centaines à la Locomotive, un club de Pigalle, où l'on pouvait voir les Kings, les Pretty Things et d'autres formations plus obscures. Et Ronnie Bird, dont toutes les filles ensuite parlaient pendant des semaines. L'acide n'était pas très connu à l'époque et tout le monde se gavait de préludine. Débarqué de Californie où il fait planer les hippies, de Los Angeles à San Francisco, le LSD est alors en vente libre dans l'Hexagone. Les papiers buvards se partagent entre jeunes gens bien informés. Antoine, encore lui, chante « Un éléphant me regarde » et les autorités commencent à s'inquiéter. Il faut dire que la presse s'en donne à cœur joie avec ses articles racoleurs sur ces jeunes gens chevelus, antisociaux et défoncés. Tant et si bien que le 3 juin 1966, l'État finit par interdire le LSD, la mescaline et la psilocybine, un demi-siècle pile après avoir fait de même pour le cannabis. Les autorités peuvent aussi compter sur le soutien de nombreux artistes qui s'opposent alors en perdent la morale. En 1967, Sullivan signe par exemple Hashish Faction, détournement sitar à la main, du Satisfaction des Stones.
Il a bien changé depuis le temps où tout souriait, le temps où toutes les filles t'adoraient. Dis, je ne comprends plus ce qui a bien pu te changer autant. Ton regard est bizarre, un peu trop flottant.
Je la mets jamais.
Dis-moi. Dis-moi pourquoi, pourquoi tu triches avec ton hashish, avec ton hashish. Dis, explique-moi donc quelle satisfaction tu peux retirer. Dans les volutes bleues de cette fumée, tu dis que le bleu sonne et que la musique est en rouge sang. Mais tu a les yeux clos, que les doigts tremblants.
Croyez-vous que je sois à nous?
Dis-moi, oh, dis-moi pourquoi. Pourquoi tu triches avec ton hachis? Avec ton hachis. Dis pourquoi ces combines qui riment en opium et en cocaïne. Quand tes rêves s'en vont, tu n'es qu'une ruine. Tu vois des éléphants dans tes paradis. Mais celle qui t'attend pleure dans son coin. Dis-moi, oh, dis-moi pourquoi. Pourquoi tu triches avec ton hachis? Avec ton hachis? Avec ton hachis?
Manif contre le Vietnam et le nucléaire, mouvement des Noirs pour les droits civiques, nouvelle gauche, l'Amérique des 60s se rebelle. À l'été 1967, le Summer of Love de San Francisco, qui a rassemblé plus de 100 000 hippies à Etashbury, symbolise l'émergence de la contre-culture, sorte de prise de conscience face à la toute-puissance capitaliste et prépare peut-être le terrain pour les révoltes qui secouent le monde tout au long de 1968. Alors que les pays du bloc occidental ne se sont économiquement jamais aussi bien porté, on sent comme un certain malaise à croire que vraiment l'argent ne fait pas le bonheur. Les critiques du capitalisme émises un siècle plus tôt par Marx et Engels ont le vent en poupe, comme celles de leurs héritiers, Trotsky ou Mao, qui trouvent en France un certain écho. Dans La Chinoise, sortie sur les écrans à la fin de l'été 67, Godard se fait l'écho des luttes idéologiques qui divisent les différents courants anticapitalistes. Les pamphlets révolutionnaires pullulent, les causes à défendre aussi du Biafra à Cuba, en passant par le Portugal ou la Palestine. La révolution n'est pas un dîner de gala, martèle Mao dans son petit livre rouge, l'ouvrage le plus vendu au monde après la Bible. Nino Ferrer préfère en rire, confessant dans Mao et moi son penchant pour le quart de rouge, la boisson du garde rouge.
Jin-tien, ni hao bu hao. Mao Mao Chungi, da hao Chungi. Nali Bali, Nali Beijing, na. Tu yao kwai kwai chu, chu kuo fa kuo ben yu, yao wei chen kwai di. Moi c'est Nino, ta c'est Mao, tu pu yi yai.
Si je suis rapide et rusé, quand je fais mes Mao croisés, me disait un Esquimao, c'est grâce à la pensée de Mao. S'il est vrai que plaisir d'amour ne dure qu'un moment très court, moi je dis qu'un bon moment vaut bien de cornes d'éléphant. C'est moi que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon bréviaire de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois les quarts de rouge. Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge.
Le 15 mars 1968, l'éditorial du Monde a pour titre « La France s'ennuie ». Les étudiants manifestent, bougent, se battent en Espagne, en Italie, en Belgique, en Algérie, au Japon, en Amérique, en Égypte, en Allemagne, en Pologne même, écrit Pierre Viançon-Ponté. Ils ont l'impression qu'ils ont des conquêtes à entreprendre, une protestation à faire entendre, au moins un sentiment de l'absurde à opposer à l'absurdité. Les étudiants français se préoccupent de savoir si les filles de Nanterre et d'Antony pourront accéder librement aux chambres des garçons, conception malgré tout limitée des droits de l'homme, persifle le journaliste, visiblement remonté contre la jeunesse de son pays. Et pourtant, c'est à peine une semaine plus tard, le 22 mars, que commence officiellement mai 68. Ce vendredi après-midi, ils sont environ 600, rassemblés dans le bâtiment B2 du campus de Nanterre. L'atmosphère est tendue après l'arrestation de plusieurs étudiants membres du comité Vietnam National lors d'une manif deux jours plus tôt. À l'issue de vifs débats, les étudiants décident d'occuper le dernier étage de la fac, le siège de l'administration, symbole d'un pouvoir qu'ils jugent autoritaire.
Quelle est la nature réelle du mouvement ? La nature du mouvement est celle que des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie. Bon, ce refus se fait d'abord à l'université. Il est clair que le mouvement du 22 mars ne veut rester à l'université, mais qu'il veut s'étendre en dehors de l'université, c'est-à-dire essayer de faire une jonction dans la lutte avec les ouvriers ou les paysans en lutte. Voilà à peu près la nature du mouvement.
À leur tête, Daniel Cohn-Bendit, jeune militant communiste libertaire aux cheveux d'un roux flamboyant. Très vite, il devient le visage de ce mouvement du 22 mars qui fait tache d'huile. Même les Mao, qui jugeaient cette initiative réactionnaire, finissent par s'y rallier. Si la France choisit de faire front contre De Gaulle en ce printemps 68, c'est la faute à Nanterre, assure Évariste, physicien, un temps reconverti dans la chanson tripée.
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Nanterre, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Grimaud, on m'a foutu en tôle, c'est la faute à De Gaulle, on m'a tout amoché, c'est la faute à Fouché.
Y'en a marre des paternalistes, y'en a marre du gadisme,
ce n'est qu'un écueil quand ils ont le combat.
Y'en a marre du bureaucratisme, y'en a marre du conservatisme, y'en a marre du gaullisme.
Pour des réalités, je suis tombé par terre, c'est la faute à Nanterre, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Grimaud.
Tout au long du mois d'avril, la situation se tend à Nanterre. À plusieurs reprises, la fac est même fermée pour éviter les actions des enragés du 22 mars. Après la convocation des meneurs devant le conseil de discipline, le doyen suspend les cours le 2 mai et le lendemain, quelques centaines d'étudiants se rassemblent pour un meeting dans la cour de la Sorbonne. Vers 16h, les CRS lancent l'assaut. Des échauffourées éclatent, elles vont durer toute la nuit. La féroce répression va alors susciter un vaste élan de solidarité. De nombreux étudiants non politisés se rallient à la base militante. Symboliquement, cette journée du 3 mai autour de la Sorbonne marque le vrai début de mai 68. Le quartier latin devient dès lors l'épicentre de la contestation étudiante. Barricades, pavés, cocktails Molotov, contre-charge des CRS, matraques et gaz lacrymogènes. Les affrontements s'amplifient de jour en jour, suivis en direct à la radio par une France d'abord médusée.
Pierre Lantenac.
Les barricades continuent de s'ériger, de monter, elles sont très hautes, il y en a qui atteignent, me dit-on, parce que je ne suis pas arrivé à faire tout à fait le tour du périmètre du corps tranché qui monte jusqu'à 3 mètres de haut. Ces barricades se modernisent puisque les étudiants ont maintenant deux marteaux-piqueurs et ils s'en servent pour desceller les pavés de la chaussée. Atmosphère détendue et puis une petite anecdote nous concernant directement. Tout à l'heure, alors que je faisais le dernier point, j'étais en liaison avec vous, et les étudiants qui m'entouraient disaient « Chiquet, c'est pas vrai, ça va pas passer, tout va être coupé, vous n'allez pas pouvoir dire exactement ce qui se passe ici. » Et puis, quelques-uns de leurs camarades avaient un post-transistor, ils sont revenus en disant « Vous savez, tout est passé. Et vraiment, alors, l'ORTF aussi suit les opérations, mais, bien sûr.
Mais nous avons toujours suivi les opérations, nous allons continuer à les suivre. À tout à l'heure, Pierre Lantenac, à tout à l'heure, Bernard Valette. Dès qu'il y aura du nouveau, nous interviendrons, bien entendu, pour vous le donner tout de suite.
Le point de rupture a lieu dans la nuit du 10 au 11 mai. Voitures incendiées, rues dépavées, vitrines brisées, de véritables combats de rue opposent étudiants et CRS autour de la rue Gay-Lussac. Plusieurs centaines de manifestants sont blessés et l'agitation étudiante, jusque-là isolée, gagne alors la sympathie du pays. Le 13, les syndicats manifestent avec les étudiants pour protester contre la brutalité policière et dès le lendemain, une vague inattendue de grève s'enclenche un peu partout. Dominique Grange l'annonce, ce n'est qu'un début.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, n'a que ses poings nus. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution, la révolution. Quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. La Sorbonne libre, sans ciel, l'Odéon, partout l'amitié. La Sorbonne libre, ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volé. La Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat. Ce n'est qu'un début, nous avons le temps d'aller en prison. Nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début.
La série musicale Simon Rico.
Les ouvriers profitent de l'agitation qui règne dans le pays pour mettre la pression sur le pouvoir et le patronat. Sans mot d'ordre national des syndicats, le mouvement s'étend pourtant rapidement. Une semaine plus tard, le 22 mai, la France est paralysée par une grève générale d'ampleur inédite. 8 à 10 millions d'ouvriers ont arrêté le travail, 4 fois plus qu'en 1936, année des congés payés et de la semaine de 40 heures. Nées spontanément, les grèves de mai 68 ne seront encadrées par les syndicats qu'a posteriori. Quant au Parti communiste, il a d'abord dénoncé une révolte de gauchistes avant de prendre lui aussi le train des manifs en marche. Pendant les événements, la radio joue un rôle majeur dans la mobilisation de l'opinion publique. Si l'antenne de l'ORTF est en grève à partir du 17 mai et sous contrôle, les reportages des journalistes d'Europe numéro 1 et RTL, rebaptisés Radio Barricade et Radio Émeute, donnent à entendre la colère de la rue, malgré les pressions directes du pouvoir. Les lieutenants du gaullisme appellent les rédactions, les fréquences des voitures radio sont coupées et bientôt ce sont même les lignes téléphoniques des quartiers chauds qui sont débranchées. L'objectif du gouvernement est clair, faire taire la révolte. À l'automne, quand il sort Paris-Mai sur une mélodie antillaise arrangée par Eddy Louis, Claude Nougaro sera interdit de radio. Après avoir repris la main, De Gaulle ne veut plus entendre parler de cette révolte qui a fait trembler son autorité.
Mais Paris. Mais Paris.
des pavés ne bouge plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendite. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume. Et piochant l'évasion d'un rossignol titan, capable d'assurer le sacre du printemps. Mais Paris, mais Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon gris. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Mais Paris, mais Paris. Mais Paris, mais Paris. Et je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta vie à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons. Intelligence blanche et grise religion. Mais Paris, mais Paris. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, mi-manne, mi-mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant.
Dans les cortèges et sur les barricades, étudiants et ouvriers marchent au rythme des slogans et des chants de lutte. Les murs se couvrent de graffitis et d'affiches révolutionnaires, la plupart inventées à l'atelier populaire qui s'est mis en place aux Beaux-Arts. Des concerts s'organisent dans les amphis et les usines occupées. Les artistes montent des groupes d'action dont le fameux CRAC, acronyme de Comité Révolutionnaire d'Agitation Culturelle. On écrit des chansons à la hâte, chacun de vous est concerné, tonne Dominique Grange, tandis qu'Évariste annonce la révolution sur un 45 tours que sa pochette qualifie de pavé lancé dans la société de consommation. Renaud Séchant, 16 ans, griffonne Crève Salope, l'une de ses premières chansons dans l'amphi de la Sorbonne où Higelin a déménagé son piano. Mais la paralysie du pays affecte aussi l'industrie musicale. Les concerts sont annulés et aucun disque ne sort avant juin. Dans les mois qui suivent, quelques poids lourds de la chanson française, Nougaro donc, Ferré, Ferra ou Moustaki, reviennent sur les événements de mai. Colette Mani y consacre même tout un album, 68-69, un disque conceptuel entrecoupé d'extraits sonores captés in situ par Chris Marker et William Klein.
Permettez que je prenne la parole. Mais, au nom de la liberté, s'il vous plaît.
Allez-y.
Écoutez, M. Blum n'a pas exposé exactement. Il n'a pas donné satisfaction. D'accord. Mais il est prêt à le faire, ça j'en suis certain. Donc actuellement, les ouvriers, les employés de l'AIMA doivent prendre conscience que ce n'est plus un problème social, mais gouvernemental.
Absolument pas.
Ma foi-ci.
Non.
Ma foi-ci. C'est masqué par des revendications. Donc. Silence, s'il vous plaît. Je demanderai à l'heure actuelle aux employés de l'ALEMA de venir s'exprimer librement, immédiatement. Après, c'est tout. Sans contrainte extérieure, parce que les ouvriers sont contraints à l'heure actuelle. Vous avez vu, je suis trop près. Les gens ne vont pas pouvoir rentrer. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur actuellement? Pourquoi vous avez peur que les Français s'expriment? Eh bien, laissez-le s'exprimer. Laissez-le s'exprimer, un point c'est tout le français moyen. Un point c'est tout. C'est ça la liberté à l'heure actuelle.
Le patron demande la parole au nom de la liberté. C'est pas le patron qui commande la grève, c'est nous. Qu'il monte sur le mur comme tout le monde au nom de la démocratie. Il a écarté nos délégués, preuve qu'il ne reconnaît pas nos syndicats. il n'a pas le droit, ça se fait pas. Au nom de la démocratie, quand il y a des licenciements, on ne fait pas de vote à bulletin secret pour demander l'avis des gens. Au nom de la démocratie, ils sont fatigués en ce moment, versons-leur un acompte. On verra bien ceux qui pensent à leur porte-monnaie plus qu'à leurs idées. C'est comme ça qu'ils essaient de nous avoir. Au nom de la démocratie, nous proposer 10% sans l'échelle mobile, on ne nous tuera pas comme ça. On luttera le temps qu'il faudra. Au nom de la liberté, camarades, nous ne pouvons pas accepter la division. Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Nous devons continuer notre lutte ensemble.
Au bout de 3 semaines d'action spontanée, mai 68 s'achève dans la division. Les divergences s'affichent au grand jour lors des négociations de Grenelle les 25 et 26 mai. Les syndicats insistent sur les revendications salariales, alors que les étudiants et une partie des ouvriers réclament une remise à plat du système. Finalement, ni le gouvernement Pompidou ni les partenaires sociaux ne signent le compromis, ce qui n'empêchera pas la mise en œuvre des principales avancées, hausse de 35% du salaire minimum et de 10% pour les autres revenus. Fin tacticien, De Gaulle exploite parfaitement les dissensions qui gangrènent le camp des manifestants. Les 29 et 30 mai, il joue un drame en 3 actes rondement menés. Disparition de l'Élysée qui suscite l'affolement, brève allocution radio pour annoncer la dissolution du Parlement, immense contre-manifestation sur les Champs-Élysées. Faute d'alternative claire, l'opinion publique choisit le retour à l'ordre et fin juin, les législatives anticipées voient le camp conservateur laminer les forces progressistes. À l'automne, Sheila fait un tabac avec Petite fille de Français moyen, une ode anti-parisienne à la France d'en bas. Voilà qui confirme que le gaullisme a bel et bien repris la main. 3 ans plus tard, Philippe Clay, ancien résistant et futur militant du RPR, enfonce le clou avec « Mes universités », violente charge contre 68.
Mes universités, c'était pas Jussieu, c'était pas Sancier, c'était pas Nanterre. Mes universités, c'était le pavé de Paris, le Paris de la guerre. On parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme. Le seul système, c'était le système des comme des brouille-toi, des comme des merde-toi, pour trouver de quoi bouffer et te réchauffer. Mais université, c'était pas la peine d'être bachelier pour pouvoir y entrer. Mais université, t'avais pas de diplôme, mais t'étais un homme quand tu en sortais. Nous, quand on contestait, c'était contre les casquets qui défilaient sur nos Champs-Élysées.
Loin de Sheila ou de Philippe Clay, mai 68 marque la naissance de l'underground français sous l'impulsion du mouvement hippie californien. Coincé entre les yéyés et les punks, une scène alternative s'émancipe tout au long des années 70. Ces artistes vont inventer une bande-son kaléidoscopique qui va de la folk au free jazz, en passant par la chanson barrée, le rock progressif ou les expérimentations électroniques. Main dans la main avec les labels indépendants qui font leur apparition, ils inventent un son nouveau grâce aux machines qui se démocratisent, magnétophones, synthétiseurs, pédales d'effet, et défendent une distribution plus directe pour faire chuter les prix des disques. Dans leur viseur, la variété et le showbiz des Sardou, Claude François ou Mike Brandt, portés par les majors qui trustent le marché sans trop prendre de risques. Sous leur impulsion, même les vedettes plus établies expérimentent. Gainsbourg et Jean-Claude Vanier composent l'histoire de Melody Nelson, Nino Ferrer compose l'album Métronomie. En 1971, François Wertheimer sort chez Big Records un 45 tours qui illustre cet état d'esprit libertaire avec une pochette où il pose nu aux côtés d'un Hitler aux cheveux longs, collier tribal autour du cou. Cette révolution musicale est soutenue par une Free Press en plein boom et s'entend sur les ondes des radios pirates comme dans les premiers festivals, à Mougy, Valbonne ou Biot, coulés entre autres par des Mao entrés sans payer en scandant la pop au peuple. La parole se libère, devient plus militante. On défend les luttes qui secouent la planète, les droits des ouvriers. On se bat pour les travailleurs immigrés ou contre l'armée. Dick Annegarn revendique son homosexualité et les femmes, Catherine Ribeiro, Brigitte Fontaine, prennent leur destin en main, loin du rôle de poupée dans lequel les directeurs artistiques des majors les cantonnent trop souvent. Inspirée par les nouvelles radicalités, culturelles et politiques, cette nouvelle scène se fait le porte-voix d'une société en pleine mutation. La pop, c'est autre chose qu'un marché, c'est une nouvelle façon de vivre qui passe nécessairement par la contestation radicale de la société bourgeoise, clame fin 1970 le manifeste du FLIP, le Front de Libération d'Intervention Pop, fondé par des groupes proches de la LCR. « Nous ouvrirons les casernes », lance l'un d'eux, Magin, acronyme de « Mouvement anarcho-héroïque des joyeux utopistes nébuleux » sur un rarissime 45 tours uniquement distribué en bonus de la revue Lutte antimilitariste.
L'armée nous appelle à ramper. Désobéir formellement à un ordre donné, désobéir sciemment à un ordre donné, ne pas avoir exécuté un ordre reçu, n'exécuter un ordre sous l'intervention d'un officier, ne pas obéir à la première injonction d'un supérieur, mauvaise volonté exécuter un ordre, murmurer contre un supérieur ou contre un ordre.
Un avertissement.
Un an d'obéissance de tous les instants. Un an pour faire un homme.
L'armée fait des crevures sans murmure. Tant de paix, taux de perte, 7%. Tous ceux que l'armée tue tout simplement sans faire d'histoire. Un soldat malade est un tir au cul. Tous ceux que l'armée laisse crever sans faire d'histoire. Un soldat qui se suicide est un mauvais soldat. Tous ceux que l'armée pousse à la mort tout doucement. Ceux qui crèvent, ils les enterrent dans les honneurs militaires. Ceux qui se ratent sont bons pour la prison. L'armée assassine en silence. Il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Silver Herzog, condamné à 2 ans de prison le 20 mars. Et tous les anonymes qui refusent de se taire, refusent de se soumettre à la démence nationale. L'armée remplit ses mitards de ceux qui s'insurgent. Bataillon disciplinaire, unité spéciale, forteresse, prison. L'armée craque de partout. Plus de 2000 insoumis et déserteurs croupissent dans les tôles, sans compter les milliers de soldats aux arrêts dans toutes les unités. L'armée craque de partout. L'armée emprisonne. L'armée craque de partout. Nous ouvrirons les prisons. Nous ouvrirons les casernes. Nous ouvrirons les casernes.
La France de Pompidou s'industrialise, se modernise et s'enrichit. En réaction, certains prônent le retour à la terre et créent des communautés néo-rurales où ils tentent de réinventer le monde dans le sillage du mouvement hippie. En Bretagne, en Occitanie ou sur le Larzac, on produit alors une musique nouvelle, inspirée tant des folklores traditionnels locaux que des musiques du monde. En 1973, le choc pétrolier marque la fin des Trente Glorieuses et le début d'une interminable crise. La classe ouvrière s'inquiète face au chômage qui monte et à la précarisation. Les labels militants, Le Chant du Monde, Expression Spontanée, BAM, Vendémiaire, distribuent gratuitement ou à prix coûtant des disques de lutte aux titres évocateurs. La musique est dans la rue, Le Chant des ouvriers, Solidarité PTT. Sur la face B de son unique 45 tours paru chez Expression Spontanée, le groupement culturel Renault s'attaque aux cadences sur un rock psychédélique prolétaire. L'ordre, c'est la servitude pour des millions d'hommes qui, de leur rude labeur, font vivre dans l'abondance une poignée d'exploiteurs. Deux titres révoltés qui paraissent peu après la mort de Pierre Auvernet, un ouvrier proche de la gauche prolétarienne tué d'un coup de revolver par un vigile de l'île Seguin.
Pour tous les ouvriers malades qui n'ont pas les moyens de s'arrêter de travailler parce qu'ils sont payés à l'heure. Pour la main ensanglantée par la machine, par ces rythmes qui s'accélèrent et épuisent notre attention. Pour ces cadences qui nous éreintent jusqu'à la crise de nerfs. Et ces usines qui nous jettent quand on n'est plus bon à rien. Merci, cadence. L'ordre, c'est pour l'ouvrier l'aliénation à petite dose, l'arbitraire du chef haillon ou la mort lente par les cadences. L'ordre, c'est la servitude pour des millions d'hommes qui, de leur rude labeur, font vivre dans l'abondance une poignée d'exploiteurs.
Mais ces appels alors, de qui nous viennent-ils ? Ils viennent de ceux qui nous gouvernent, élevé dans les chaînes de père en fils pour maintenir leur privilège.
Cet ordre, c'est pour des cerveaux de bas étage, des commères de paliers, des branleurs de bissetières, des corridors de sectaires, sclérosés, cerveaux en crasse, masturbés de télévision, siffleurs d'affiches pour cul de cellulite, la brosse à dents, je t'en fiche.
De la gueule, d'arguments dilués le soir, par le sourire charmeur d'une vache de soupiquerie, distillant par les pourrisseurs de ses mamelles.
L'ordre, c'est la misère que l'on voit autour de nos villes, où des milliers de déportés viennent dans notre pays goûter le charme de nos foyers-cercueils.
Cette petite musique, oui, cette petite musique vous annonce que des chiffres sont à l'antenne. Voilà l'estimation, 20h, François Mitterrand aurait obtenu, selon la Sofres, je vous en prie, non, les gens qui vous regardent aimeraient regarder tranquillement et je vous en remercie, 51,7%. Et Valéry Giscard d'Estaing aurait obtenu 48,3%. Dans cette hypothèse, 51,7, François Mitterrand deviendrait le nouveau président de la République. Nous allons affiner ces chiffres avant de vous donner le plus rapidement et le plus objectivement qu'il nous sera possible l'information brute.
L'arrivée de la gauche au pouvoir referme symboliquement la page de l'underground post-68. La posture contre-culturelle de nombreux artistes français s'arrête en 1981, confirme le pianiste free jazz François Tusk. On entrait dans une nouvelle période, plus académique. Il y avait désormais beaucoup de fric pour la culture. Il n'était donc plus question de s'intéresser à la révolution. Les acteurs de la première scène underground française ont vieilli et laissé place à de nouvelles radicalités, le punk d'abord, puis la new wave, incarnée par les jeunes gens modernes. Dans les années 80, la mutation accélérée de la technologie avec le développement des synthés MIDI, des samplers, des ordinateurs et du CD va aussi les ringardiser. Si l'engagement politique a perdu la cote, l'esprit frondeur insufflé par l'underground post-68 reste bien vivace. Un demi-siècle après, la postérité de ce sillon semble bien assurée, la liste d'héritiers est plus longue que le bras, quitte à ne plus avoir le poing levé. Avec sa carrière dans l'ombre de la pop, conclue par un burn-out, puis un premier disque underground acclamé ce printemps, Chaton semble résumer à lui seul le destin de cet autre pop à la française.
Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite, je continue d'écrire des poésies. Le téléphone est éteint, le téléphone est éteint, le téléphone est éteint. Je ne répondrai jamais plus de rien, je ne me sens pas très bien. Depuis la fin des années 80, pourtant la vie est facile, il suffit de baiser les gens droit dans les yeux.
C'était 1968, La chanson au pouvoir, une émission proposée par Simon Rico et réalisée par Ghislaine David. À la technique aujourd'hui, il y avait Pierrick Monsigny. Vous retrouverez toutes les références des morceaux que nous avons diffusés, une playlist et une série de recommandations sur franceculture.fr. On se retrouve demain du côté de Prague, où le printemps tchécoslovaque fut écrasé en plein été par les chars soviétiques.
Je fais pas le malin sous les néons, quand je lui mets ma folie dans la coche. Si l'alcool ferait couper aux larmes, c'est que ça va pas vraiment faire. Parfois j'ai besoin d'un sac en craft, quand simplement respirer devient un effort.